Bien, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence « Quelle temporalité dans la saga de Frank Herbert, d'une à 50 ans ?» Alors, on va commencer par présenter un peu qui sont les intervenants de cette conférence que nous espérons brillante.
On ferme la porte peut-être ?
Oui.
Est-ce qu'on peut fermer la porte, s'il vous plaît ?
Oui.
Merci.
Merci Damien. Merci beaucoup. Alors, j'ai commencé par parler du jeune homme qui se trouve à ma droite. Donc, Norbert Merjanian. Je vais pas dire que tu es vieux, quand même. Donc, Norbert Merjanian est né en 1968 à Sisteron. Il a fait une carrière dans la banque jusqu'en 2006. Puis, il s'est installé à Nantes, où il se consacre depuis à l'écriture. Parce que Norbert est un auteur de science-fiction. Il a écrit son premier roman qui s'intitule « Les Tours de Samarante ». Qui remonte à 2008, qui a été publié à des Noëls la même année, et qui a décroché le nouveau Grand Prix de la SF la même année aussi. Son deuxième roman, qui fait suite autour de Samarante, s'intitule « 13, altitude 0 ». Il a été, la même année, en 2011, qu'il a été publié, finaliste du prix des blogueurs, l'année de la création du prix. Dans ces deux romans, Norbert, il parle d'une Terre du futur lointain, un futur post-apocalyptique. Suite à des guerres climatiques, les océans de la Terre se sont asséchés. Les dernières cités humaines qui vivent dans l'île de l'océan Atlantique asséchée sont sur le point de se livrer une guerre sans merci contre une civilisation de cyborgs. Dans cet univers, les dates, puisqu'on parle de temps ici, sont calculées non pas à partir d'un événement du passé, mais bel et bien par rapport à un événement du futur, qui est celui de l'avènement de la première intelligence artificielle qu'il appelle la Creatura. Donc tout ça, ce sont des thèmes qui sont très duniens, bien sûr, et c'est, je pense, l'une des raisons pour laquelle il a été sélectionné pour... nous parler ici. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Norbert ?
Non, c'est parfait. C'était parfait.
C'est gentil, merci beaucoup. À ma gauche, donc, le capitaine du Nexus 6. Alors, donc, derrière ce personnage qui écume les recoins les plus éloignés de notre galaxie, on trouve un blogueur vidéaste, ce qu'on appelle aussi un vlogueur, présent sur YouTube depuis décembre 2014. Donc, depuis cette date, on a pu voir apparaître sur sa chaîne pas moins de 10 vidéos sur des thèmes de SF des plus variés. Alors, il aime nous présenter des critiques de films et de livres. Il aime présenter des genres, par exemple le post-apocalyptique, qui semble-t-il lui plaît beaucoup. Bon, c'est pas mon cas, mais c'est pas grave.
Ah, mais il faut de tout dans la nature.
Et surtout de l'actualité de la science-fiction, qui est riche et qui, dans les mois qui viennent, sera riche aussi. Et je pense que ça sera très intéressant de suivre sa chaîne de ce fait. Donc, le capitaine, il aime la science-fiction, il le dit, il partage son goût, c'est précieux de nos jours. C'est en tout cas un connaisseur de Dune, si j'en crois certaines choses que j'ai pu voir dans ses vidéos, certaines références, ou même l'ambiance musicale parfois.
Oui.
Bon, alors si là aussi tu souhaites dire des choses, je t'en prie.
Voilà, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, Nexus 6, le but c'est de parler de la science-fiction dans sa globalité, c'est-à-dire le cinéma, évidemment, mais la littérature, et tu ne l'as pas cité parce qu'on n'a fait qu'une seule vidéo, le jeu vidéo également, et puis a priori, ça pourrait être d'autres... d'autres sujets également. On se concentre pas forcément sur une œuvre, ça peut être un thème, comme tu l'as rappelé, et l'idée, c'est vraiment d'apporter notre analyse de la chose. Et concernant Dune, eh bien, j'ai une relation tout à fait, j'allais dire charnelle, mais ça c'est mon côté coquin, avec Dune, car c'est peut-être, avec Star Wars, le premier univers de science-fiction que j'ai découvert vers mes 3-4 ans, avec le film. Et puis avec le livre, vers mes 7, 8, 9 ans, donc voilà, c'est un truc familial, c'est un truc de mon père également. Et pour l'ambiance musicale, eh bien, c'est aussi grâce à mon réalisateur et aussi membre d'équipage du vaisseau, Alex Kislexlo, qui est là, et qui choisit les musiques et qui sait bien les choisir. Voilà. Donc maintenant on va parler d'une et ça va être bon.
Alors, il ne reste plus qu'à me présenter moi-même, donc mon pseudonyme, Anudar Bruceis. Vous pouvez oublier le deuxième, Anudar, ça suffit. Dans la vraie vie, je suis professeur de sciences de la vie et de la Terre, dans un collège qui est juste à côté d'ici. Et puis, si je suis ici, ce n'est pas parce que je dissèque des souris et des grenouilles, c'est parce que je suis blogueur de science-fiction depuis 2010. Donc, sur mon blog, ce dont je parle, c'est surtout de mes lectures, et puis aussi des films que je vais voir quand j'ai envie d'en parler. Alors, Dune, c'est un univers qui m'accompagne depuis un âge assez jeune, peut-être pas autant que le capitaine ici présent. C'est un univers que j'ai découvert quand j'avais 14 ans. J'ai découvert par l'intermédiaire du jeu de Cryo, que certains d'entre vous connaissent sans doute. Hein. Et c'est dans les semaines qui ont suivi mon jeu intensif dans cet univers-là, je me suis lancé dans le livre écrit par Frank Herbert. Et puis ses suites après, dans les mois qui ont suivi. Bon, j'ai très vite eu envie de partager mon goût pour Dune. Alors, ça a été bien sûr l'une de mes intentions lorsque je me suis décidé à ouvrir mon blog, mais bien avant ça, j'ai découvert donc sur Internet une communauté d'amateurs de Dune sur le site dune-sf.fr que je représente ici. C'est la seule communauté dunienne francophone de référence et j'y participe depuis 2005 avec beaucoup de bonheur. Donc, à la fin de la séance, je tiendrai à vos dispositions des cartes de visite. N'hésitez pas à venir les récupérer puis à nous rendre visite. Nous sommes présents sur pas mal de réseaux sociaux et nous aimons beaucoup interagir avec d'autres amateurs de Dune. On est là pour ça. On va en venir maintenant, donc enfin, à cette conférence, la temporalité dans Dune. Alors, bon, déjà, comme vous le savez, Dune, c'est une œuvre qui a 50 ans cette année, puisque c'est l'anniversaire de la première publication en livre. Donc, 50 ans, pourtant, une œuvre dont nous parlons encore. Alors, chaque année, on se demande pourquoi, et donc, cette année, on a décidé de voir un peu qu'est-ce qu'il en est du rapport au temps dans Dune, la temporalité dans Dune. Alors, pour faire une espèce d'introduction, j'aimerais un peu, déjà, qu'on resitue un peu les choses et qu'on se pose une question simple dans sa formulation, mais peut-être pas dans la réponse à laquelle on peut lui apporter. Le temps, c'est quoi, en fait ?
Vas-y, Norbert, je te
laisse. Ah oui, carrément, d'accord. Alors, moi, ce qui m'a... Pour Dune, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, c'est un univers qui m'a nourri aussi beaucoup. Ce que je partage avec cet univers, je crois, c'est, en tant qu'auteur, c'est que moi j'écris aussi, j'écris essentiellement un univers monde, et Dune c'est typiquement l'univers monde. Donc la notion du temps est à mon sens fondamentale dans un univers monde, quel qu'il soit. Et si on part sur l'idée qu'est-ce que le temps, moi j'aurais tout de suite ce qui m'est venu à l'esprit très vite, c'est au fond non pas de définir le temps comme la flèche du temps, ce qu'on a l'habitude de dire, ou même on va aborder ça ensuite, le temps dans Dune, mais vraiment le temps en tant que tel. Et là-dessus, moi je m'appuie sur ce que j'ai lu dans le monde de la physique, et notamment une des représentations les plus intéressantes, les plus innovantes, je trouve, c'est, ça vient de certains physiciens quantiques, la mécanique quantique à boucle, qui disent tout simplement que le temps à l'échelle quantique, à l'échelle du tout petit, tout simplement n'existe pas. Donc déjà, ça pose les choses. Et au fond, donc du coup, qu'est-ce que le temps ? Ben, c'est quand il apparaît, et quand est-ce que, où il apparaît ? Il apparaît dans l'univers macroscopique qui est le nôtre. Donc le temps n'est pas nécessaire, en tout cas pour pas mal de physiciens, à l'échelle quantique. Il devient nécessaire à l'échelle macroscopique. Et si je pouvais résumer les choses, je dirais qu'au fond, le temps, c'est l'espace qui... Donc déjà, on est dans un paradoxe. C'est l'espace qui rend possible les rencontres des objets macroscopiques, c'est-à-dire qui rend possible la rencontre entre nous ici. Et c'est ce qui fait qu'il est irréversible, qui est une des premières caractéristiques du temps. Il est irréversible parce que la rencontre, parce que cette possibilité de rencontre est irréversible aussi. Donc c'est une des définitions du temps. Et tout de suite, enfin, je veux dire, ça c'est vraiment quelque chose que tous les philosophes ont traité aussi. On est avec le temps dans une difficulté de définition, parce que le temps se définit très mal en lui-même. Il se définit, c'est un concept quasi relationnel. Il ne se définit que par rapport à tout le reste. C'est-à-dire que là, je l'ai fait en disant c'est un univers de rencontres possibles, enfin de possibilités de rencontres plutôt. On pourrait dire aussi que le temps, c'est un espace, voilà, c'est un paysage, ça on va retrouver dans Dune, c'est une notion qui revient très très souvent. Et donc il se définit par rapport à aux êtres, il se définit par rapport à l'esprit, c'est-à-dire par rapport aux souvenirs qu'on en a, ou à la préscience qu'on en a, et il se définit par rapport à un univers de lieux et un univers de possibilités. Donc moi j'aurais tendance à dire, finalement on évacue le qu'est-ce que le temps, et on se dit surtout qu'est-ce que le temps nous dit de tout le reste. C'est plutôt comme ça que je verrais les choses.
Mon capitaine ?
Alors, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter, parce que je suis assez d'accord avec toi. En fait, le temps, c'est ce qui ouvre le champ des possibles. À partir du moment où quelque chose ne devient plus possible, il n'y a plus aucun intérêt à le mesurer dans le temps, puisque de toute façon, cela n'existera pas. En fait, j'aurais aimé pouvoir répondre à la question, si tant est que ce soit possible, mais je viens de sortir d'une heure et demie, presque deux heures de discussion sur le temps avec deux physiciens astrophysiciens passionnants, qui m'ont fait... C'est-à-dire, je ne sais plus aujourd'hui ce qu'est le temps. Déjà que le temps peut-être n'existe pas, le temps n'existe pas au micro, niveau microscopique, il est tel qu'on le perçoit, nous, à notre niveau humain, je dirais, mais dès qu'on va dans les étoiles, il devient relatif, et enfin là, on ouvre toutes les possibilités. Donc moi, là, maintenant, je ne sais plus ce qu'est le temps, je ne sais pas si j'arriverai à rentrer chez moi en marchant, parce que peut-être que la distance va s'étirer à l'infini du fait de la relativité du temps, je ne sais pas. Oui. Donc, non, le temps, c'est ce qui nous permet de nous rencontrer et de créer une société. À partir du moment où les êtres humains, par le fait de distance et des échelles de temps inimaginables qui les séparent, ne peuvent plus cohabiter, communiquer, je pense que là, il n'y a plus rien, entre guillemets. Voilà. Mais là, je vais peut-être un petit peu loin. Voilà, c'était juste pour aller un petit peu dans ton sens. Je suis tout à fait d'accord avec ce Norbert. Tout simplement.
Merci, capitaine. Bon, alors, on va déjà commencer par te rassurer. Ici, tu n'es pas avec des physiciens, tu es avec des personnes de bonne compagnie.
Mais voilà. C'était très intéressant.
Moi, je suis biologiste avant tout. Donc, ce que je tiens à dire quand même, c'est qu'on ne va pas ici remettre en question le fait de savoir si le temps existe au niveau macroscopique ou quoi que ce soit. Moi, ce qui me parle beaucoup quand je pense au temps, alors d'abord, c'est le fait qu'on le définit avec des unités. Donc dans le système international des physiciens, il y a une unité qu'on appelle la seconde, et c'est à partir de la seconde qu'on peut définir les grandeurs d'emploi courant, qui sont les minutes, les heures, les jours, les années. Donc à chaque fois, une minute égale 60 secondes, et ainsi de suite, vous connaissez ça depuis longtemps. Donc ça, c'est ce qu'on appellera le temps physique, même si les physiciens n'aiment plus parler du temps, d'après ce qu'on a entendu dans la conférence à laquelle j'ai assisté il y a un instant. Ce qui m'intéresse aussi, et là c'est plutôt en tant qu'être humain et puis en tant que lecteur de Dune, surtout pour des raisons qui vont se dégager, c'est que, eh bien, en tant qu'être humain, nous avons conscience du passage du temps. On sait dire que telle chose s'est passée avant telle autre chose. Donc ça veut bien dire qu'on se rend compte qu'il y a une différence, hein, bien sûr. Alors, on devra distinguer le temps instantané qui correspond à l'expérience du présent. Si vous croisez un ami dans la rue, pendant quelques temps, vous allez vous dire « ben l'autre jour j'ai vu un tel ». Puis il y a un moment où vous allez vous dire « Ah ben, il y a tant de temps, j'ai vu un tel ». Donc ça veut dire que dans votre esprit, les deux expériences sont pas tout à fait les mêmes. Il y a l'expérience qui est encore fraîche dans votre tête, elle appartient encore au présent, puis il y a le moment où elle est archivée en fait. Donc vous sortez du domaine de l'instant présent pour passer au registre des expériences mémorisées. Ça sera très important dans Dune. Notez bien que dans les deux cas, on peut rajouter une dimension supplémentaire qui complexifie les deux types d'expériences du temps. D'un point de vue subjectif, si vous passez 5 minutes chez le dentiste, ça va toujours durer plus longtemps que si vous passez une journée entière avec la personne que vous aimez. Donc notion de temps subjectif qui vient complexifier un peu déjà le fait que vous êtes capable de percevoir le passage du temps. Ensuite, en tant qu'être humain, on est surtout capable d'être conscient qu'il existe des durées de temps qui sont très supérieures à celles de l'expérience d'une vie entière. On sait que notre planète, elle a environ 4 milliards et demi d'années. On sait que l'univers a un peu plus de 13 milliards d'années, donc on sait que les temps géologiques sont d'une extrême longueur qui dépasse toutes nos expériences possibles. On parlera de temps long, comme le temps au cours duquel se réalisent des phénomènes qui échappent à notre perception sensible. Donc, dans tout ça, il y aura des choses qui vont là aussi intervenir dans notre compréhension de Dune, hein, transformation d'un paysage, changement de la géographie, je parle de la géographie terrestre, pas de la géologie, pas de la géographie humaine, et puis, bien sûr, l'évolution des espèces. Donc, tout un tas de choses dont Frank Herbert a eu l'occasion de parler, et dont, du coup, nous allons parler un peu pendant cette conférence. Alors, à partir de là, parlons maintenant de Dune, et donc, commençons par nous demander, mais quelles sont les échelles de temps qui sont appliquées dans Dune ? Norbert, tu veux, ou bien on envoie le capitaine cette fois-ci ?
Alors, si je ne me trompe pas... quoique ça dépend, le calendrier, j'ai un petit doute là. On est en l'an 10 000, mais après le djihad butlérien. On est d'accord ?
Après la fondation de la guilde.
Après la fondation de la guilde.
Mais c'est presque pareil.
Ouais, c'est presque pareil.
À 80 ans de distance.
Donc on est en, grosso modo, en plus 15 000 sur le calendrier grégorien environ, je crois que c'est ça, si je me souviens bien. selon les notes de Herbert qui sont un peu...
Les dates sont imprécises, ça dépend des sources.
D'accord.
Mais c'est pas grave, c'est dans un futur lointain.
Voilà, donc ça c'est l'échelle de temps. Ensuite, si on va jusqu'à la maison des mères, on en arrive à plus 20 000, plus, voire plus 30 000, parce que quand l'empereur Dieu règne, c'était sur plusieurs millénaires, si je me souviens bien.
3500 ans.
Heureusement, on a un mec très spécialisé là, très... C'est bien, c'est bien.
C'est pour ça que je suis là.
Voilà. Donc, c'est ça l'échelle. Après, qu'est-ce qui s'y passe? Et dans quelle mesure le temps s'y exprime? C'est ça la question.
Moi, par rapport à l'échelle, ce que je dirais, ce qui me paraît intéressant, on peut même étendre un peu les choses. Il y a une notion qui me paraît fondamentale dans Dune, chez Herbert, c'est l'idée de le rapport entre la permanence et la non-permanence. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments où Frank Herbert dit « rien n'est permanent, rien, aucune chose, rien n'est permanent, mais tout lutte pour la permanence ». Et... ce qui peut être aussi une définition de la vie, d'ailleurs, de la vie micro-organique comme de la vie intelligente. Et au fond, toutes les formes d'organisation dans Dune, quelles qu'elles soient, répondent à ce principe. Et c'est bien un principe temporel, c'est-à-dire que le principe, c'est la non-permanence, donc c'est un principe anthropique, c'est tout disparaît. Et tout lutte pour sa permanence. Et donc ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est comment est-ce que les différentes organisations, les différents systèmes de pensée, les différentes les protagonistes aussi, les personnages développent des stratégies, des découvertes aussi, comme Paul avec la préscience. Pour arriver à cette permanence, c'est-à-dire à arriver à durer en fait et à marquer le temps. Donc, l'échelle est très grande parce que précisément pour arriver, et je pense que c'est pour ça qu'Herbert a pris une échelle aussi longue, pour arriver à montrer en quoi un système politique ou une civilisation est non permanente, il faut une échelle de temps très grande, exactement comme nos civilisations actuelles. Qui peuvent se prétendre permanentes, sauf qu'à l'échelle, à une échelle beaucoup plus grande, quand on prend de la hauteur, cette permanence disparaît. Et pour arriver à montrer à quel point cette idée de permanence et de non-permanence est cruciale, je crois que il a besoin de prendre cette distance et donc une échelle aussi longue.
Moi, je voulais juste une petite précision. J'espère qu'on en parlera après, parce que c'est vraiment un point central pour moi, et c'est intéressant que tu parles de permanence, parce que moi, pour moi, la seule chose qui est permanente dans Dune, dans le temps, qui transcende le temps, ce sont les gènes, la génétique. C'est ça qui transcende toute cette échelle dans Dune, c'est... alors, ça s'exprime sur différents niveaux, c'est-à-dire le but ultime du Bene Gesserit, c'est-à-dire le fait de créer le Kwisatz Haderach, donc ça passe par la génétique, puisque ça passe par la reproduction, par tout ce plan de reproduction qui s'étale sur des milliers d'années, ça passe aussi par la représentation des maisons, la maison Atreides, la maison Harkonnen, qui ne finissent pas d'exister, puisqu'il y a reproduction sociale, il y a ce système social établi jusqu'à un certain point, mais c'est vraiment ça qui est important dans Dune, je pense, c'est les gènes qui perdurent sur toute cette échelle. On le voit aussi avec Duncan Idaho qui en a pas fini avec la vie, puisque pour ceux qui n'ont peut-être pas lu Dune jusqu'à la fin des mers, Duncan Idaho, qui est un personnage qui meurt alors des dunes, sera cloné à de multiples reprises pendant des milliers d'années dans les livres suivants. Je viens de spoiler mon ami François Torel.
Il est jusqu'au Messie, il y a déjà son premier clone.
Bon, ah, c'est bon, d'accord. Bah, il y en aura d'autres, beaucoup d'autres.
Alors, en effet, oui, déjà pour resituer les échelles de temps dans Dune, on ne peut pas ne pas parler des dates auxquelles ça se produit. Donc, on annonce au début de l'œuvre, en fait, on annonce l'année 10191. Sauf que c'est pas une année 1891 par rapport à notre calendrier à nous, c'est par rapport à la fondation d'une institution qui est la Ligue spatiale. Alors, en fait, ça veut dire que depuis environ 10 000 ans, les gens de l'univers de Dune, ils connaissent le voyage spatial instantané. Et d'une certaine façon, en fait, il n'y a plus rien à inventer. Donc, ils vivent dans une civilisation qui est une civilisation permanente, où rien de fondamental n'a changé depuis pas loin de 10 000 ans. Donc on en rejoint du coup ce dont Norbert parlait, hein, le fait qu'on est dans une culture de la permanence et en fait de la stagnation. Ces gens-là vivent dans un présent éternel. Et pourtant, dans le même temps, ils trouvent moyen de se projeter un peu dans l'avenir. Notez bien que les puissants, ils sont capables de se projeter dans des stratégies à long terme. Et ça, c'est un énorme point commun entre les deux ennemis irréconciliables que sont le duc Leto Atreides et puis le baron Vladimir Harkonnen. Le duc, lui, il veut acquérir le pouvoir du désert pour permettre à sa maison de s'installer d'une façon durable sur Arrakis. Le baron, lui, qu'est-ce qu'il veut ? C'est mettre un de ses descendants sur le trône impérial. Et ça, ce sont des plans à échelle de des années, des décennies, qu'ils sont capables de donc concevoir. Et dans les deux cas, leurs stratégies vont leur survivre, et même réussir. Tout ça est rendu possible aussi, bien sûr, grâce à la présence de l'épice, donc c'est cette drogue qui est produite à partir de la récolte de ce que l'on trouve sur la planète Arrakis. Donc cette drogue permet de prolonger la vie, bien sûr, et donc de changer un peu le rapport au temps des gens dans cet univers. Puisque, ben, d'un seul coup, les gens peuvent vivre plusieurs siècles à la suite. Donc, bien sûr, ceci nous amènera plus tard à parler un peu du rapport au temps, cette fois-ci non pas civilisationnel, mais individuel dans Dune. Alors, avant ça, peut-être que, puisque dans Dune, on a beaucoup parlé d'écologie, peut-être que ce serait bien de se demander si le temps long dont on parlait tout à l'heure, il a cours dans le cycle. Est-ce que les gens se préoccupent de temps long ou bien juste de temps court à échelle humaine ? Donc là, je vais peut-être commencer par interroger Norbert, puisque lui, il aime beaucoup les temps longs.
Moi, j'aime beaucoup les temps longs, oui. Enfin, j'aime plutôt la rencontre du temps long et du temps humain, justement, du temps court. Et alors, il y a plein de façons de répondre à cette question, parce qu'il y a la façon de presque dramaturgique, qui est, au fond, de dire l'auteur de Dune utilise une unité de lieu, qui est Arrakis, pour parce que c'est un nexus temporel, et qu'est-ce que ça veut dire ? Il le définit, il y a plein d'endroits où il définit ce qu'est un nexus temporel. Ça renvoie précisément, à mon avis, à sa façon de concevoir le temps. C'est-à-dire qu'il y a énormément dans Dune de passages où le temps est conçu comme un écoulement, mais un écoulement qui les images qu'il emploie, d'ailleurs, sont souvent un écoulement de sable ou un écoulement d'eau, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement fluide, d'inconsistant, non formel et non formé et de quasi invisible, imperceptible. Et donc là, on est sur les temps longs et tout le rapport, là encore, que ce soit des Bene Gesserit, de la préscience, etc., c'est d'arriver, par rapport à cet écoulement long et imperceptible, à trouver des lignes de crête, des failles, des repères qui permettent de baliser cette espèce de matière temporelle informe. Arrakis est typiquement le nexus là où tous les avenirs possibles s'entremêlent, se touchent et où tout se réouvre. Et il y a une image qu'il utilise qui est très intéressante, c'est qu'il dit, notamment quand Paul se retrouve dans la caverne des Fremen, il dit c'est un nexus, c'est un endroit où il y a un levier incommensurable, un levier formidable, où chaque acte, chaque petit événement qui se passe à ce moment-là peut avoir, grâce à ce levier, une répercussion sur l'univers entier. Et ça, c'est très très intéressant. On est typiquement à la rencontre du temps long, c'est-à-dire d'événements qui ont été mis en place par, justement, par exemple, j'en cite un, la Missionara Protectiva, c'est-à-dire la Bene Gesserit, enfin une des Bene Gesserit qui implante des légendes et qui a implanté des légendes dans la culture Fremen. Il y a sans doute, je sais pas depuis combien de temps, tu pourrais le dire, tu es plus spécialiste que moi, mais enfin, on se doute que ça remonte à des siècles. et qui donc travaille sur un temps long, et ce temps long se réalise lorsque Paul rencontre les Fremen. Et donc là, on a la rencontre du temps long et du temps court, et à un moment, dans un lieu et un espace-temps qui est un nexus, c'est-à-dire un endroit où tous les possibles peuvent se jouer, et où il y a un levier qui permet aux possibles qui vont être choisis d'avoir sur l'avenir un impact très fort. Et ça, c'est intéressant parce que, y compris, alors on est typiquement dans une dramaturgie très forte, mais on peut aussi se demander si, tu parlais de temps subjectif, si nous-mêmes, dans nos propres vies, dans nos propres expériences, on ne rencontre pas à certains moments des temps ou des lieux de ce genre où, dans un tout petit laps de temps, certaines actions, certaines orientations peuvent jouer en levier sur nos propres vies, voire sur des espaces plus vastes, et si cette notion de nexus temporel, en fait, n'est pas assez universelle. Et donc, cette rencontre temps long, temps court.
Alors, merci Norbert. Donc, avant de céder la parole au capitaine, ce que tu dis là sur le fait que les écoulements du temps sont matérialisés dans Dune par des mouvements de sable et d'eau, songez, si vous avez vu le film de David Lynch qui a été diffusé l'année dernière aux Intergalactiques, hein, songez à ces passages où on voit toujours cette goutte d'eau qui frappe une surface d'eau, et puis donc les ondes qui s'en éloignent comme ça. Donc c'est à ce genre de détails que l'on voit quelqu'un comme Lynch avait lu Dune, avait apprécié, puis avait su voir des choses très intéressantes.
Ouais, alors moi je peux même citer, tu vois, j'avais pris quelques citations, alors c'est en français, mais tu en as une qui est très claire, elle dit « En s'agrippant au présent, il décelait la monumentale régularité du mouvement du temps, compliqué de courants changeants, de vagues, de houles, comme la mer contre les récifs. » Et ces images-là reviennent très 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 souvent, c'est-à-dire la notion du temps comme une espèce de mer, d'océan, ou de dune justement, de sable, et on revient à cette idée de permanence et de non permanence et d'impermanence aussi.
Ah, vas-y, t'avais un truc à dire.
J'allais te laisser la parole.
La question c'était, est-ce que les personnages, quels sont les personnages qui ressentent le temps court, le temps long? C'était un peu ça le début de la phrase de base. Ok. Sans rentrer trop dans les détails, mais t'as un peu abordé le sujet, Norbert, je pense que c'est aussi une question de culture dans l'univers de Dune, c'est-à-dire que les Fremen sont plutôt dans une logique de temps court, quoique, après, mais peut-être que je me trompe, mais dans la logique de survie de leur culture aussi, il y a un certain culte du temps long, et surtout aussi par le biais de Shai-Hulud et de cette existence permanente du dieu vert, je dirais. Mais c'est aussi peut-être déterminé par le fait qu'Arrakis soit une planète de sable, du moins au départ, qui est perpétuellement changeante, mais en même temps, d'une certaine manière, perpétuellement la même, puisqu'une dune de sable peut ressembler à une autre, d'un point de vue humain, comme ça, alors qu'en fait elle est totalement différente, et que même, en fait, d'une certaine manière, on puisse pas dire qu'une dune soit toujours la même. S'il y a un coup de vent, elle se modifie, même de manière très perceptible. Personnellement, j'essaie de réfléchir depuis tout à l'heure au sujet, j'arrive pas trop à dire quelque chose de plus intelligent que ce que Norbert vient de dire, donc personnellement, je pense que c'était très intéressant.
Non, mais pour poursuivre, ça amène peut-être à la préscience, mais tu vas peut-être en parler ensuite. Moi, c'est une chose qui m'a beaucoup, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé aussi en tant qu'auteur, c'est précisément le rapport de la préscience à l'avenir. C'est-à-dire que ce qu'on retrouve dans Matrix, dans plein d'auteurs de philosophie, etc., etc., c'est-à-dire jusqu'à quel point une préscience de l'avenir est-elle une prophétie ou est-elle une autoréalisation d'elle-même dans cet avenir. Et ce que je trouve intéressant dans Dune, c'est qu'il va au-delà de l'autoréalisation. Il y a l'autoréalisation, là encore par les légendes Bene Gesserit et par l'action sur la génétique, mais il y a aussi une réelle préscience qu'incarne le Kwisatz Haderach qu'est Paul, et je pense qu'il la matérialise précisément en montrant ce qu'est le temps, c'est-à-dire justement c'est cette espèce de paysage informe, souvent aussi il le décrit comme une vallée, ou comme un paysage où il lui est possible de voir certains aspects, certains moments du temps futur, et à d'autres moments, c'est des moments qui sont en creux, qui ne voient plus, dont il n'a plus la vision. Mais surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la façon qu'il a de décrire ces nexus temporels où apparaissent ces visions, parce que ça n'apparaît pas tout le temps, il n'a pas des visions tout le temps, c'est justement ces moments rassemblés où les possibles... Ces possibles sont entremêlés et où lui voit des lignes de failles, des irrégularités dans toutes les possibilités qui sont face à lui. Et où, au fond, il a à ce moment-là, par son action, la possibilité d'orienter des schémas. Et ça, c'est d'orienter aussi bien l'avenir concret d'une multitude de gens que, y compris, une espèce de schéma spatio-temporel de façon plus générale. Par exemple, si je reviens au djihad, qui est une de ses obsessions, il ne cesse de vouloir échapper au djihad, qu'il voit comme une espèce de fatalité, de ligne de possible qui revient en grande probabilité. C'est-à-dire très très souvent, il est face à cet avenir qu'il pressent, qu'il ressent comme revenant très très souvent, et donc il va devoir trouver les lignes de faille qui ne correspondent pas exactement à cet avenir pour lui échapper. Et donc... il y a une représentation visuelle assez bien décrite, assez claire d'Herbert sur ce don de prescience, et on peut le voir comme quelque chose de poétique. On peut aussi aller un peu plus loin et essayer de se mettre à la place de ce prescient qu'est Paul, essayer de ressentir soi-même où sont ces lignes-là et comment est-ce qu'on peut les ressentir lorsqu'on est dans un nexus, si on arrive à trouver un nexus.
Alors, moi j'aimerais partir sur ce que disait le capitaine concernant le fait que pour lui, les Fremen vivraient plus dans le temps court que dans le temps long. Alors moi je suis pas d'accord. Pour moi, il y a une nette opposition entre la société impériale, la société galactique, alors qui est une société, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est une société de l'instant, une société du présent, une société de la consommation, disons-le, une société capitalistique. Voilà. En face, donc, il y a les Fremen, les hommes libres du désert, qui, eux, vivent au contraire plutôt dans le temps long. Alors, le temps long qui n'est pas que celui de la survie, mais celui de leur tradition, celui de leur histoire orale, ouais. Et puis surtout celui de leur projet de transformation planétaire. Donc, pour moi, c'est l'une des premières apparitions, entre guillemets, du temps long dans Dune, dès lors que l'on voit apparaître le planétologiste, et puis surtout que l'on découvre quel est le véritable projet des Fremen, c'est-à-dire celui de transformer Dune, qui est une planète désertique, en monde vert, en monde jardin. Alors ça, c'est un projet de géo-ingénierie, en fait, qui exploite le génie humain comme une force géologique, bien sûr. Et ça, les Fremen qui participent à ce projet, ils savent qu'ils n'en verront jamais la fin, quand le projet commence. Ils savent qu'il y en aura pour quelques siècles. Pourtant, ça ne les empêche pas de se lancer dedans. Ça, c'est une chose qui apparaît dans les appendices à Dune. À un moment, le planétologiste qui initie le projet, qui s'appelle Pardo Kynes, les Fremen lui demandent « Dans combien de temps est-ce qu'on pourra avoir de l'eau libre sur Arrakis ? » C'est-à-dire quand est-ce qu'on aura des conditions de pression-température qui permettront d'avoir de l'eau qui coule de la façon normale sans qu'elle s'évapore aussitôt. Et là, il répond « Oh, 200-300 ans. » Donc lui, il parle dans le temps long. Les Fremen, ça ne les décontenance pas. N'importe qui pourrait se dire « je verrai jamais ça, ça m'intéresse pas. Après moi, le déluge. » Les Fremen, non, ça ne les gêne pas. Ils se disent « Bon, ben, ça sera nos descendants qui connaîtront ça, tant mieux. » Donc les Fremen, ils vivent dans le temps long, de toute évidence. Alors, ce ne sont pas les seuls à vivre dans le temps long, bien sûr. Dans l'univers de Dune, il y a aussi les Bene Gesserit. Les Bene Gesserit, elles ne travaillent pas à de l'ingénierie planétaire, ce qui est déjà quelque chose d'extraordinaire, mais elles travaillent bel et bien à un projet d'amélioration de l'espèce humaine, d'évolution future de l'espèce humaine par des croisements, on va dire, sélectionnés avec soin pour produire en fait un être supérieur qu'on appelle le Kuzet Haderach. Et je vais te laisser parler parce que tu as commencé à aborder ça tout à l'heure et tu as dit que les gènes te fascinaient.
J'aime surtout la reproduction, c'est quelque chose d'important.
avec une Bene Gesserit. Ouais,
ça peut être intéressant.
Une honorée matriarche plutôt.
Ouais, c'est vrai. Non, en fait, c'était vraiment parce que avant de venir ici, et oui, c'est vrai, maintenant que tu me le dis, c'est vrai que c'est évident en fait que les Fremen viennent nous entendre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. L'idée, c'est qu'est-ce que permet le temps? Et tu parles de temps long, le Bene Gesserit a cet objectif de créer l'être supérieur. Et là, évidemment, c'est une question de génération, enfin, sur des millénaires, c'est ce qui se passe dans le livre. L'idée étant, jusqu'à quel point un objectif donné à un instant T, quel est le rapport tu as par rapport à quand cet objectif sera atteint? Est-ce que toi, tu veux le vivre, c'est un peu ce que tu disais avec ton exemple des Fremen, ou est-ce que tu penses dans une globalité, donc pour le bien de ta société? Il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire le Fremen ne vit plus dans une société, dans l'aspect du groupe, qui est important pour une survie aussi, c'est aussi logique, par rapport à la société impériale, quoique après, dans la société impériale, il y a des différences. La maison Atreide n'a pas la même gestion de ses gens que la maison Harkonnen ou que la maison Corino, etc. Donc, en fait, c'était un petit peu en ça, quand je parlais de temps long et temps court par rapport à la... En fait, je pensais pas forcément à la société impériale dans un ensemble mm-hmm. donné. Je pensais plutôt aux gentils, c'est-à-dire la maison Atreide, qui, elle, a un rapport quand même plus doux avec le temps. Et même si Leto, tu l'as bien rappelé, a cet objectif d'être installé sur Arrakis, je pense qu'il y a un but aussi derrière... d'amélioration de conditions pour ces gens, pour Arrakis, et qui, comme tu l'as dit, lui survivra, même si ça va prendre des hauts et des bas pour y arriver d'une certaine manière. Mais voilà. Du coup, je vais pas trop parler du Kwisatz Haderach, mais
tu peux encore le faire.
Non, mais j'en ai déjà parlé, donc laissons Norbert, par exemple, en parler.
Norbert, je t'en prie.
Mais on digresse un peu, du coup, ça fait difficile.
Non, moi ce que je trouve... Alors là, pour le coup, Paul, ce qui me paraît intéressant, c'est que lui incarne, c'est-à-dire il est charnel, il incarne tout ça. Mmh. Il incarne cette rencontre entre le temps long, le temps court. La préscience, c'est pareil, c'est très très physique. Hein, il a des visions très charnelles et très physiques qu'on retrouve dans le film... de Lynch, mais qu'on voit aussi dans le roman, et là aussi ça renvoie, moi on voit bien que c'est le fils d'une Bene Gesserit, puisque chez les Bene Gesserit le rapport au temps il est génétique, mais il est aussi dans leur propre vision des œufs de vérité. Et une des choses qu'elles disent, c'est qu'au fond, elles ont ces visions viennent de la mémoire du corps, c'est-à-dire qu'elles ressentent le temps comme quelque chose de non fléché. Elles vont lire l'avenir dans le passé, et le passé, elles l'ont souvent dans la mémoire de leur propre corps. Et Paul, en ça, bien comme, a la même capacité, et il va lire l'avenir de façon extrêmement charnelle par son corps. Et moi, ce qui me semble intéressant dans le Kwisatz Haderach, c'est ça, c'est-à-dire que lui, il est le nexus humain, le nexus vivant. Autant il y a des lieux, enfin des moments dans Dune qui sont des nexus... des nœuds quoi, spatiaux ou spatio-temporels, autant lui c'est vraiment le nexus humain, le nexus vivant qui est le nœud ultime de tout ça. Et c'est peut-être ça, cette notion de Kwisatz Haderach, qui est l'humain l'humain, alors on pourrait dire supérieur, mais pour les Bene Gesserit c'est l'humain tout court, hein. Moi je me souviens du moment où il y a cette citation aussi, où elles disent qu'elles font le tamis, je crois que c'est peut-être... Non, c'est la... la mère de Paul, c'est la...
C'est la révérende mère.
C'est la révérende mère qui dit qu'elle tamise les gens pour ne garder que les humains. Donc, moi, j'adore cette idée, parce que j'ai tendance à considérer qu'effectivement, l'humanité... la vraie humanité est rare, et donc elle ne cherche pas un surhumain, elle cherche le véritable humain. Et Paul est le véritable humain, c'est-à-dire celui qui arrive à être au nœud aussi bien des prophéties, des temps longs, et en même temps de lui-même, c'est-à-dire qu'il oriente par ses propres désirs, ses propres volontés, il oriente l'univers entier. Et c'est là où je pense que l'œuvre de Dune est intemporelle, parce que ce qu'elle questionne, c'est notre rapport et le rapport de tout être humain à l'univers qui l'entoure, et avec cette idée qui est très forte et qu'il est possible de modifier l'univers entier, même dans une caverne Fremen.
Alors en effet, c'est depuis le lieu où Paul s'abrite, hein, dans le siège des Fremen, c'est là qu'il prend la décision de changer l'univers, en fait. Donc, s'il est capable de prendre cette décision, c'est bien sûr parce qu'il est le produit du programme de sélection génétique des Bene Gesserit. Alors, on parlait de temps long. Il est annoncé dans Dune que le programme de sélection génétique des Bene Gesserit, il est de 100 générations. Une génération humaine, on considère que c'est environ 25 ans, c'est-à-dire entre le moment où une personne naît et puis le moment où, en général, le premier enfant naît, en moyenne, c'est aux alentours de 25 ans. Donc 25 fois 100 générations, ça fait 2500 ans, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire que ce programme, il est étalé sur tout l'univers connu, sur une échelle de 2500 ans. Tout ça pour arriver à un être humain, ou post-humain peut-être, puisque Paul possède quand même des talents peu communs. Alors n'oublions pas que l'une des premières choses qui nous permettent de prendre conscience qu'il est spécial, c'est quand le duc, son père, lui dit qu'il est Manta, en fait, ordinateur humain. Si l'on y réfléchit bien, de cette capacité d'être Manta, c'est de là que l'on peut peut-être expliquer la préscience de Paul, qui, en dehors de ça, semble un peu quelque chose de magique. Associer le fait que Paul possède, puisqu'il est le Kwisatz Haderach, d'une mémoire seconde qui lui permet d'avoir une expérience de ses vies passées, en fait, enfin, des vies de ses ancêtres, pour être plus précis. Associer ceci au fait qu'il est un ordinateur humain, c'est-à-dire capable de réaliser des computations, des projections. Vous êtes capable d'expliquer sa préscience. Vous êtes capable d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est capable de voir les avenirs. Bon. Alors, ceci étant dit, dans cet univers de Dune, jusqu'à présent, on a beaucoup dit que la société impériale, la société commune, vivait dans un monde un peu permanent, un peu inchangé. Les Fremen, ils vivent dans le temps long, mais dans le même temps, eux-mêmes, leur tradition ne change pas, n'évolue pas, hein, jusqu'au moment où Paul fait son arrivée. Et donc, du coup, est-ce que, quelque part, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que le rapport humain au temps ne change-t-il jamais dans le cycle de Frank Herbert? Et là, on va parler de Dune, bien sûr, mais aussi de ce qui vient après. C'est-à-dire la suite de livres qui commence par le Messie de Dune, et puis il y en a toute une série jusqu'à la Maison des Morts. Donc, je ne sais pas qui veut commencer par se lancer. Ah, Norbert t'a montré, donc c'est à toi.
Non, j'avoue, là, je suis pas très inspiré. Bon, j'ai pas lu la saga depuis 6 ans, c'est la dernière fois que j'ai lu, donc c'est vrai que là, c'est un peu difficile.
C'est très mal.
C'est très mal, il y a tellement de choses à lire. Est-ce que le rapport au temps change dans la saga de Dune? Bon, déjà, il paraît assez évident que le rapport au temps de Paul, par exemple, change. De Leto, une fois qu'il devient empereur dieu, puisqu'il vivra des milliers d'années, déjà. Donc le rapport au temps, inévitablement, est modifié à partir du moment où tu deviens éternel, d'une certaine manière. Tu ne conçois plus ta propre existence de la même manière, la propre existence des autres, parce que au bout de 10 000 années d'existence, comment peux-tu ne pas considérer les autres comme des fourmis, puisque tu es au-dessus, tu seras éternel. Donc, il y a un rapport au temps qui change. Le rapport au temps pour les Fremen, par exemple, puisque leur société va évoluer, puisque Arrakis finira par devenir, en tout cas pendant une période, si je ne me trompe pas, mais tu me corrigeras, deviendra un paradis pendant un certain temps, et redeviendra
un enfer,
voilà. C'est pour toi, le spoil. En même temps, c'est un peu difficile. Il y a une modification de cette perception. Après, c'est toujours par rapport... On a un peu abordé le sujet, mais comment tu perçois les choses, à quel degré. Tu vois, par exemple, on disait les Fremen sont dans le temps long, mais effectivement, leur culture ne se modifie pas. Donc, eux aussi, ils sont dans une espèce de reproduction de leur culture, un peu comme l'Empire Galactique. Donc, c'est ça. Peut-être que sur certains cadres, certaines échelles, la perception du temps change, mais sur d'autres, au final, pas du tout. Question. Voilà.
Alors, Norbert, si tu veux prendre le relais.
Oui, moi je vais quand même aussi revenir sur ce que tu as dit sur le pôle élémentaire, parce que ça me paraît important dans la notion du temps. Y a une chose là aussi que moi sur laquelle j'ai beaucoup travaillé dans mes propres écrits, où j'appelle ça la voix des machines, et les mantas représentent dans d'une les ordinateurs humains, donc c'est très lié. C'est que pour les mantas, il y a quelque chose qui est posé, c'est qu'on ne peut comprendre un processus que si on se refuse de l'interrompre. C'est-à-dire que il faut cheminer avec un processus, quel qu'il soit, politique, psychologique, organisationnel, etc. Il faut cheminer avec lui pour le comprendre, mais ne jamais l'interrompre. Et on voit bien le rapport, les mantas ont un rapport à l'action qui est donc presque taoïste. Ils sont dans la non-action. Et en revanche, ils sont des conseillers de gens qui agissent. Mais eux-mêmes, la plupart du temps, proposent des pistes d'action, mais n'agissent pas. Or, Paul, le moment où il n'est plus manta, c'est le moment où, précisément, où il dépasse totalement la pensée même du manta, c'est quand son rapport au temps et au processus change, dans la mesure où il agit très vite, il agit. Et pour moi, c'est en cela que, effectivement, c'est peut-être un manta à la base, mais il ne l'est plus très très vite, et même dans son esprit, à mon sens, il ne l'est pas du tout. Et pour ce qui est du rapport du temps après dans Dune, moi j'ai tendance à penser que là après, quand on est dans l'immortalité, on retombe sur des thèmes qui sont quand même assez classiques, enfin je sais pas, mais qui sont très classiques dans toute la littérature fantastique de SF, voire philosophique, le rapport de l'homme à l'immortalité, ou le rapport de l'homme à des temps plus longs, ça a été beaucoup traité. Moi, sur l'œuvre de Dune, par rapport à ça, j'ai pas
grand-chose à dire
de plus. Oui, sur le rapport à la mémoire aussi, c'est-à-dire, de toute façon, le temps, le temps humain, enfin, notre vision du temps, plutôt, c'est nécessairement un rapport mémoriel. On n'a de conscience du temps que par notre mémoire. Donc, évidemment, si on a une mémoire qui est très, très longue, sur une durée très longue, notre rapport au temps sera pas le même. Mais là, on ouvre un autre... On peut en discuter, mais pour moi, c'est vraiment un autre champ de discussion qui est très vaste en soi et...
Alors, moi, ce que j'aimerais relever sur cette question, c'est que au début de la conférence, on a dit que, eh bien, quand Dune commence, on est en l'an 1091, et puis on a eu l'occasion de dire que c'était un univers qui était quand même assez stagnant, on va dire. Et puis, quand Dune se termine, je fais référence là au premier roman, hein, on est en 1093, et puis c'est une ère nouvelle. Donc, à peine 2 ans plus tard, tout éclate. Quand le Messie de Dune commence, en fait, on apprend que 12 années se sont passées, puis qu'en 12 ans, l'univers a été tout transformé. Donc il y a eu une guerre sainte, les Fremen ont quitté Arrakis pour aller conquérir l'univers tout entier.
D'ailleurs, parenthèse, il y a une très belle scène, je me souviens, qui m'avait marqué, où un Fremen raconte la première fois où il a vu la mer.
Oui.
Et ça, c'est très beau.
Et c'est le moment où le djihad sort de lui, le moment où il se baigne dans la mer.
Exactement.
Puisqu'il a vu en fait ce qui avait été promis, donc il n'y a plus lieu d'être en guerre sainte.
Exactement.
Et donc cette guerre sainte entraîne en fait un véritable changement dans les rapports temporels, hein, au niveau de l'espèce humaine, puisque bien sûr, d'un coup, on confronte des cultures qui sont très différentes. Pour les Fremen, ils découvrent des cultures qui leur sont, dans certains cas, incompréhensibles, voire détestables. Ça ne se fait pas sans heurts, tout ça, c'est un énorme traumatisme, puisque ça génère un nombre insensé de morts, hein. C'est annoncé dans le Messie de Dune, 60 milliards de morts. C'est Paul lui-même qui l'annonce.
Ouais. Il se compare à Hitler, hein. Enfin,
oui.
Il dit, j'ai tué plus d'humains que Parce que l'histoire humaine, c'est un peu perdu. Hein. Il dit, je ne sais plus exactement ça dans le texte, mais que ces vulgaires dictateurs de la Terre, il cite Hitler, Staline. Donc pour nous, en tant que lecteurs du 20e, 21e,
ça prend une résonance.
Ça prend une résonance, oui, tout à fait.
Donc ça, ce rapport au temps est d'un seul coup bouleversé. En 12 ans, en fait, l'univers change pour les gens du quotidien, en fait. Et ça change encore avec l'irruption du fameux empereur Dieu dont tu nous parlais tout à l'heure. Hein. Alors lui, il fait encore pire, puisque en 3500 ans, il maintient une véritable stagnation. Il va au-delà de la situation qui était antérieure à 10191. Il élimine les historiens, par exemple. Donc le passé n'a plus le droit de citer. Donc là, on est à nouveau dans une civilisation qui est dans un présent qui s'étire à l'infini. Mais là, c'est dans un but à vocation totalitaire. Et là, on en revient à ce que dit Norbert depuis le début. L'objectif de l'empereur Dieu, c'est en fait de concevoir un nexus, un nouveau nexus, qui va se résoudre lorsqu'il va mourir. Et lorsqu'il va mourir, en fait, d'un seul coup, la diversité de rapports au temps, en particulier les diversités culturelles, les diversités religieuses, les diversités philosophiques, vont à nouveau éclater. Ce qui va donner lieu à cet univers très étrange, très particulier et très fascinant qu'on trouve à la fin du cycle de Dune. Où là, après toutes les milliers d'années de péripéties qui se sont produites et dont il a été question, les personnages, en fin de compte, sont différents. On pourrait presque les qualifier de post-humains. Ils ont un rapport au temps qui n'a plus rien à voir avec le nôtre, en particulier. Et surtout avec les personnages majeurs des révérends de mer, qui, avec leur mémoire seconde, ont un accès à tout ce qui s'est passé jadis, et qui pourtant ont une conscience, comme quoi elles sont peut-être les dernières révérends de mer, qu'elles font partie de la dernière génération de révérends de mer. Alors, si mes honorables collègues veulent rajouter quelque chose, je... les écouterai bien volontiers, et puis après, nous aimerions vous donner la parole à vous, surtout, parce que nous pensons que vous avez des choses à dire.
Alors moi, je voudrais juste rajouter une chose, c'est, il me semble que Herbert a un rapport, autant, comme d'ailleurs à toute son œuvre, qui est celui de la vie. C'est-à-dire, là, je reprends une de ses citations, mais c'est Keynes, le planétologiste, c'est son père, en fait, qui dit « La vie... » augmente la capacité de l'environnement à susciter la vie. C'est-à-dire, c'est un principe de la vie, elle augmente sa possibilité. Elle modifie l'environnement pour que cet environnement lui soit plus favorable et donc que la possibilité de la vie soit plus grande. Ça, c'est un principe qui peut même être une des définitions de la vie. Et moi, j'aurais tendance à dire, on peut étendre cette idée à l'idée de préscience. C'est-à-dire, si on reprend exactement la même phrase, la préscience augmente la capacité de l'environnement à susciter la préscience. Et c'est là où on peut aussi comprendre la façon dont fonctionne Paul. C'est-à-dire que en agissant par préscience, et ce que font les Bene Gesserit aussi, et quasiment tous les protagonistes qui ont une vision du temps long, ils augmentent la capacité de l'environnement à susciter de la préscience. Et quand on est en période de stagnation, c'est que précisément l'environnement a perdu cette capacité. Et quand on est dans un nexus, au contraire, ou dans un temps qui se condense, qui se rassemble, au contraire, l'environnement plus favorable à la préscience et plus favorable aux visions et donc à une accélération du temps. Et moi, c'est quelque chose sur le... Enfin, voilà, j'en parle parce que ça m'a beaucoup frappé en relisant, parce que j'ai un petit peu relu là pour la conférence... sachant que c'est quelque chose moi sur lequel je travaille énormément. Tu l'as dit dans l'univers monde que je décris, il y a un nexus de ce type qui s'appelle le seuil, qui est une datation à 113 années devant le monde que je décris, et où tout le monde sait qu'à ce moment-là, il va y avoir un seuil évolutionnaire, un seuil d'évolution pour toute l'espèce humaine, et tout le monde a cette temporalité en tête. Et en fait, ce que je décris, c'est qu'il y a une accélération au fur et à mesure qu'on se rapproche de ce moment. Il y a une accélération parce que justement le champ des possibles est amplifié par la pensée de cette datation. Et là, pour moi, c'est vraiment un principe ça renvoie à un principe du vivant. C'est-à-dire que reprennent les hommes, que reprennent les humains, c'est-à-dire à favoriser la possibilité d'être. Donc c'est un principe qui combat, totalement anti-anthropique ou mésanthropique.
Rien à ajouter.
Très bien, donc ça va être à vous tous. Alors, comme nous n'avons pas de micro, sauf erreur, il faudra que vous parliez bien fort, s'il vous plaît, pour que tout le monde en profite. Alors, donc il y a depuis tout à l'heure Damien qui se démanche le bras, donc on va commencer par lui donner la parole. Sois bref, s'il te plaît.
En fait, j'aimerais parler par rapport à la pression, sur le fait que la pression se figerait, en fait, l'avenir, dans le sens où un prescient est bien un nexus en soi où il va imposer une vision de l'avenir, et du fait qu'il ait vu l'avenir dans un sens, cet avenir ne peut plus que s'écouler dans cette direction-là. Et ça se voit, ça commence avec les navigateurs qui sont prescients en soi, mais c'est une prescience très légère qui aurait figé potentiellement l'humanité pendant tout l'Empire galactique. Suivi du seul un autre nexus, donc un autre nexus humain, donc Paul, qui lui prescient encore plus grand, non visible du coup par les navigateurs, qui est totalement invisible de leur vision, crée une nouvelle direction, mais qui est totalement figée aussi. On arrive à l'Empereur Dieu qui lui pareil provoque la même chose, mais du coup l'Empereur Dieu essaye de casser ça, provoquer une rupture dans ça. C'est-à-dire que lui voit, sait que la prescience fige l'humanité, et du coup il va amplifier le phénomène jusqu'à qu'il ait une solution. Et justement avec les descendants de sa sœur, enfin avec différents croisements, va essayer de créer des êtres et de disperser ces êtres dans ces gènes qui font que ces personnes-là sont invisibles à la préscience et du coup amènent amènent un avenir à l'humanité qui n'est plus figé par les préscients. En fait. Pour moi, en fait, les préscients, oui, sont des nexus, mais sont des nexus qui amènent un changement, puis on ne peut plus sortir de ce changement parce qu'ils ont vu l'avenir, donc ils ont provoqué l'avenir. Le fait de voir comment c'est quantique, le fait de voir ne peut amener plus qu'un seul résultat. Le fait qu'ils aient vu l'avenir, il ne peut plus y avoir que cet avenir. C'est le fait de ne pas voir qui fait que l'avenir peut devenir changeant et provoque la dispersion.
Alors c'est ce qu'on appelle le principe des prophéties autoréalisatrices. Hein. Mm-hmm. Donc il est vrai que Frank Herbert lui-même s'amuse à un moment dans Les Appendices à Dune à comparer la préscience des navigateurs avec celle de Paul. Donc, les navigateurs sont conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui va mal se passer à un moment. Ils voient en fait que, comme dans leur préscience limitée, ils voient qu'il y a des décisions difficiles qui les attendent et ils ne parviennent pas à dire ce qui va se passer derrière. Et Frank Herbert le dit dans Les Appendices à Dune, d'une façon très claire, que c'est parce qu'il y a une force qui manipule en fait l'avenir à un niveau qui est supérieur à celui des navigateurs. Donc on peut interpréter cette force comme étant Paul ou bien comme étant l'Empereur Dieu lui-même. Ça dépend un peu de la lecture qu'on veut en faire. Toujours est-il que ce qui est très intéressant, c'est comme tu le dis, l'Empereur Dieu, les taux 2, se rend compte que ça ne va pas. Et on peut interpréter son plan en fait, de 3500 ans comme étant en fait un moyen de faire émerger des gens qui soient invisibles au regard des préscients. Donc c'est les descendants de la lignée de Siona, en fait. Et c'est l'un des enjeux dans la Maison des Mères, hein. Les personnages majeurs, ceux qui ont un rôle influent dans le Bene Gesserit, sont tous des descendants de Siona. Pourquoi ? Parce que comme ça, ils échappent au regard des navigateurs de la guide. Et puis d'un éventuel nouveau Kwisatz-Haderach, s'il y en avait un qui venait à venir comme ça. Alors, une autre question ?
J'avais une intervention sur le temps comme enjeu politique, en fait, dans Dune, c'est central, parce que le vrai pouvoir, je vais faire un parallèle entre Paul Atreides et Jacques Attali, si vous voulez. Le vrai pouvoir, en fait, de Paul Atreides, c'est en effet sa maîtrise pas tellement du temps, mais sa vision du temps qui lui donne une maîtrise du récit du temps. Mmh. Et c'est, lui, il ne peut pas arriver tout seul avec ses gros muscles et casser la gueule au Harkonnen. Il est obligé de mobiliser autour de son récit, et c'est le fait que ce sont les Fremen qui croient en son récit qui va les mettre en mouvement autour du projet, du projet politique de Paul, qui est de capter du coup ces forces-là. Et il arrive à les capter parce que justement il a ce récit. Alors on voit aussi du coup les taux 2 qui veut tuer les historiens, il garde la maîtrise du récit. Parce que c'est le récit qui a une puissance de mise en mouvement des individus. Et on voit ça aujourd'hui quand on voit ceux qui sont placés, je parlais de Jacques Attali. Jacques Attali, souvent il fait des histoires du futur. Il fait des prédictions, Jacques Attali. Et on voit bien que c'est un enjeu de pouvoir majeur, parce qu'est-ce qu'on va croire ou pas aux prédictions de Jacques Attali? Si on croit aux prédictions de Jacques Attali, on est tout à fait disposé à voir advenir le gouvernement mondial, puisque selon Jacques Attali, c'est quelque chose qui était prévu. Et c'est un objet politique énorme que de faire croire qu'on va voir le temps, parce qu'on peut tout à fait imaginer que Paul Atreides fait croire qu'il va voir le temps. Si on est un de ses contemporains, on n'est pas obligé de croire en son pouvoir. Certes, il a les yeux bleus, bon, il a peut-être du beau de la vie, on peut ne pas croire en ces trucs-là. Mais il y a un moment, on y croit, on n'y croit pas. Et pour faire un parallèle aussi avec le marxisme, c'est un récit du temps long avec une prophétie qui dit un jour, la classe ouvrière, les forces productrices, les forces productives vont prendre le pouvoir. Et si aujourd'hui, la classe ouvrière se sent plus comme une classe en mesure de prendre le pouvoir, c'est qu'elle ne croit plus en ce récit. On a effondré, on a ce récit-là de prise du pouvoir par le prolétariat. C'est effondré sous le coup de prophétie. Hein, et le marxisme fonctionnait aussi comme une prophétie qui s'est cassée la gueule. Donc la question, là, quels sont les prochains grands récits auxquels on va devoir adhérer ou non? Alors il y a le projet de Jacques Attali, là il y a tout ce que nous disent les écolos. C'est ceux qui actuellement produisent le plus de discours, de récits du futur, donc, si on met de côté les auteurs de science-fiction aussi. Mais ceux qui ont un impact direct sur l'univers politique, c'est les écolos. Donc il faut voir si leur récit va plaire assez, va être assez fort. Et c'est pour ça que on est dans l'histoire politique. C'est d'une, son essentiel, Paul Atreides, son essentiel pouvoir, c'est un pouvoir sur le temps. Et ce sont que des héros qui ont du pouvoir sur le temps, lui, il est aux deux, etc. Et en fait, le pouvoir sur le temps, c'est le pouvoir sur la politique. On appelle ça d'ailleurs le pouvoir temporel. Quand on dit le pouvoir temporel, c'est le pouvoir politique, en fait. Mmh.
Tout à fait, mais Dune est une œuvre très politique. Voilà, oui. Et c'est d'ailleurs l'un des. Les Bene Gesserit s'intéressent à la génétique. Mais ce sur quoi elle travaille pour de vrai, c'est la politique.
C'est le jeu de pouvoir. Bien sûr. Et moi, j'ai cité la Missionara Protectiva, c'est-à-dire l'implantation de légendes, ce que tu décris très très bien avec le récit prophétique qui prépare le terrain. Mais là aussi, on peut le voir d'un point de vue écologique. On peut voir d'un point de vue politique en disant, au fond, Paul n'est que l'aboutissement du travail des Bene Gesserit. On peut le voir d'un point de vue quasi écologique, c'est-à-dire en disant qu'il y a un environnement qui est travaillé, pas un récit prophétique, et à un moment donné, dans cet environnement travaillé, il y a un individu ou plusieurs individus qui arrivent et qui restent, qui gardent une possibilité de vision personnelle et de choix personnel. Et c'est là où je trouve que c'est plus intéressant. Parce que si on est simplement dans la réalisation du récit prophétique, au fond, à mon avis, l'œuvre de Dune perdrait beaucoup d'intérêt, et toute œuvre d'ailleurs, tout récit perdrait beaucoup d'intérêt, parce qu'on serait dans un déterminisme absolu du récit qui, du début à la fin, où chaque acteur n'est qu'une marionnette d'un schéma global. Et c'est vrai pour nous aussi. Alors Jacques Attali, moi je rebondis un petit peu, parce qu'effectivement, il prédit, enfin... Jacques Attali, c'est quand même le summum des prédictions qui ne se sont pas réalisées. Donc la vraie science-fiction, c'est lui. La science-fiction qui s'est réalisée, le cyberpunk, se réalise aujourd'hui de plein de façons et personne ne le dit. Donc on n'est pas assez, on est dans notre milieu, pas du tout assez. On ne dit pas assez fortement, enfin on n'est pas assez fort sur les prédictions qu'on peut faire. Sur les visions qu'on peut avoir, et effectivement on laisse beaucoup parler des gens qui se prétendent prédire, avoir des prédictions importantes. Là moi je pense qu'on peut donner un nom à ça, ça s'appelle de la propagande, non, c'est pas de la prédiction.
Et c'est pour ça le truc de la Missionaria Protectiva, moi j'avais adoré cette idée dans Dune, l'idée que la prophétie n'est pas quelque chose qui vient vraiment d'en haut, un truc transcendant ou je sais pas quoi, non, c'est un récit qui a été construit par des humains qui avaient un but à un moment. et qu'il n'y a pas tellement de puissance extérieure dans Dune, ou alors, si, après, mais bon, bien après. Mm. Mais en tout cas, là, dans ces histoires-là, il y a des simulacres de puissance, en fait, dans ces récits qui sont en fait construits.
Ouais, moi, j'aime bien ton idée de la remise en question de la réalité de prophétique de Paul, ou même de bon, l'entre-dieu, pour le coup, il vient d'un ver géant, donc c'est quand même un peu plus probant, mais j'avais jamais imaginé qu'on puisse remettre en question Paul, en fait. Tu vois, tu viens de me donner l'idée. Et c'est vrai que, en fait, tout ça, c'est un pouvoir de persuasion. C'est-à-dire, c'est l'éternel débat. Est-ce que, dans Matrix, il y a ça. C'est-à-dire, l'oracle qui dit à Neo, c'est pas grave pour le vase. Donc, évidemment, il se retourne, il fait quel vase, et il renverse le vase. Mais c'est ça la question. Est-ce que si elle lui avait pas dit, c'est pas grave pour le vase, est-ce qu'il se serait renversé? Est-ce que le vase aurait été cassé? Voilà, c'est toute la question. Et c'est vrai qu'en fait, c'est une propagande à partir du moment où tu instilles un récit dans une société. Si tu fais croire chaque être, chaque composante de cette société à un récit, eh bien les gens, inévitablement, de manière presque inconsciente, en fait, vont aller vers cet objectif, en fait, puisqu'on ne peut pas le remettre en cause, on ne peut pas imaginer autre chose, et à partir du moment où on détruit les historiens, eh bien... voilà, on va tous comme un flux, en fait. La société devient un flux qui... coule vers un objectif final qui est déterminé à l'avance. Voilà. Après, mais c'est sauf s'il y a apparition d'un nexus ou d'une singularité qui fait que le flux dévie. Et c'est en ça que, d'une certaine manière, c'est dommage que Frank Herbert soit mort avant de finir La Maison de Mer, parce que, surtout que, du coup, j'en parle, son fils l'a très mal terminé. Ne vous pas la fin, c'est très, très mauvais. Bref, voilà, on aurait aimé savoir. Enfin, c'est l'idée, c'est un bon. On en reparlera dehors si vous voulez, on avait dit qu'on n'en parlerait pas.
Non, c'est pas qu'on avait dit qu'on n'en parlerait pas, c'est qu'on s'était dit qu'on avait déjà tant de choses à dire c'était peut-être pas la peine d'aborder
bon,
ça.
Bon, voilà, bah, si vous voulez, on en parlera dehors. Voilà, tout simplement. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas fini, parce que quelle aurait été la prochaine singularité, qu'est-ce qui aurait conclu cette saga, c'est ça qui aurait été. Bon, ça aurait été beau de savoir.
Mais la fin de La Maison des Mères n'est-elle pas la plus belle qui soit, puisqu'elle est ouverte et que du coup on a. Tout est libre pour notre imagination.
Ça, c'est très personnel après, bon. Voilà, chacun voit ce qu'il aime. Bon.
Alors, y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît?
Bon,
bah, Damien, hein.
Parce que moi, pour moi, après l'Empereur Dieu, donc les hérétiques et la Maison des Mères, on n'est plus dans des périodes de temps en temps. On est entièrement dans des livres sur le changement. Là, mais dans les hérétiques, c'est le changement le plus total. Les honorés matriarcheux sont partout, débarquent, on ne sait pas qui est le chef de qui, enfin, c'est le gros dawa. Ça va même jusqu'à la destruction, sans en dire quoi, mais pour ceux qui ont lu, comprendront de quelle destruction je veux parler. Ben c'est du pur changement. On a fait la dispersion, il n'y a plus de pression pour moi, donc je reviens à ce que je disais avant. Nous sommes dans un moment de changement. Et dans La Maison des Mères, c'est pareil. La seule chose qu'on essaye de faire dans La Maison des Mères, c'est qu'est-ce qui essaye d'être fait dans La Maison des Mères, c'est la survie. La survie des Begin et Siris, voilà, c'est leur survie, elle sait faire juste leur survie dans ce monde qui a tellement changé qu'elles n'y ont sûrement plus leur place, en fait. Donc tout est, pour moi, tout est, après l'Empereur Dieu, nous ne sommes plus du tout dans un moment où le temps se trouve long. Et dans la longueur, nous sommes dans un changement perpétuel. C'est pour ça que pour moi, les hérétiques, c'est un livre préféré, parce que ça bouge tout le temps, ça change tout le temps. On est à la course, c'est un des rares livres de Herbert où c'est vraiment genre un Indiana Jones qui parcourt le monde.
Toute proportion gardée. Hein,
oui, toute proportion gardée.
Mais pour dire, ça avance, on suit une
ça
avance, c'est de la pure aventure, c'est de la pure action.
Alors c'est vrai que le rapport au temps de certains personnages est très différent dans Les Hérétiques. Hein. Bon, tu parles du personnage de Miles Teg, qui est capable de dilater le temps, puisqu'il bouge plus vite. Bon, je sais pas, il me semble qu'il y a un super-héros qui est capable de faire ce genre de choses dans un autre contexte. Mais en tout cas, oui, le personnage de Miles Teg, c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans le cycle de Dune. Hein. Bon. Après...
Dans quelles conditions il les a écrits aussi, enfin, En tout cas, la maison des mères, j'ai l'impression que c'était un peu obligé, il s'est senti obligé de le faire, par exemple. Peut-être pas les hérétiques, mais j'ai l'impression que la maison des mères, il y avait eu un peu une polémique par rapport à ça, parce qu'il avait été obligé.
Alors là, ça me dit rien. Ce qui est certain, c'est que dans la maison des mères, le livre se termine sur un hommage assez net à la femme qui venait de perdre, en fait. Ouais. Voilà. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il s'est senti obligé de l'écrire, mais... il y a une tonalité nostalgique et mélancolique hein, dans la maison des mères qui provient sans doute de cette expérience douloureuse. Est-ce qu'il avait prévu d'écrire quelque chose après on attendra de le voir pour qu'il nous le dise. Est-ce que ça aurait pris les formes qui ont été données par son héritier littéraire, oui. Ça, je ne le prononce pas. Donc... quoi qu'il en soit, pour ce qui est du rapport au temps dans la fin du cycle, oui, il y a un net changement de façon de voir les choses, ce qui d'ailleurs fait en sorte que la fin du cycle ne plaît pas à tout le monde, puisqu'on change de représentation, on change de... tout est bouleversé avant la fin du cycle, en fait, l'épice est rare partout dans l'univers. Après, dans la dernière partie du cycle, d'un seul coup, il y a de l'épice à profusion partout. D'un seul coup, il n'y a plus du tout d'État organisé, d'État impérial à la place. Il y a des grandes factions qui partagent une souveraineté sur les différents mondes de l'Empire. Le voyage spatial n'est plus soumis au monopole de la guilde. Bon. Il a donné un énorme coup de pied dans son univers sur la fin du cycle et bien entendu aussi sur... la relation au temps de ces personnages. Alors, y a-t-il d'autres questions maintenant ? Beaucoup de silence. J'espère que nous n'avons endormi personne ici.
Non, on a saoulé.
Voilà, on vous a saoulé, donc on est désolé. Alors, quoi qu'il en soit, nous vous sommes très reconnaissants d'être venus nous écouter dans nos délires. Hein. On espère que ça vous a donné envie, surtout, d'ouvrir ou de réouvrir vos livres de Frank Herbert, d'aller... voir ou revoir le film de David Lynch. On vous signale, au cas où vous ne le sauriez pas, qu'il y a eu dans les années 2000 une mini-série qui a été faite. Ouais. Voilà, qui adapte donc Dune et puis Le Messie et des enfants. Alors, on ne se prononce pas sur ce que ça vaut ou quoi que ce soit, c'est pas la question. Moi, je dis que ça mérite d'être vu. Ouais. Et puis, bien entendu, continuez à lire Dune, continuez à apprécier cet univers sous toutes ses déclinaisons.
Et moi, si je peux rajouter quelque chose, ce qui est intéressant quand Dune commence, c'est qu'on est effectivement dans un univers en stagnation. Il me semble qu'on est dans une période en stagnation. Ça rend le livre particulièrement jouissif dans la mesure où on ne peut qu'espérer un nexus ou travailler un nexus d'une manière ou d'une autre, que ce soit par prescience ou par action, pour ouvrir, réouvrir le champ des possibles. Et je pense que notre période et notre société en a particulièrement besoin. Donc relire d'une, c'est bien, et réouvrir le champ des possibles, c'est pas mal.
Tout à fait.
Et n'importe pour ceux, je sais qu'il y en a dans cette salle qui n'ont jamais vu ni lu d'une, ça a dû être un petit peu difficile sur certains termes.
Ouais. Mais alors il faut lire d'autres auteurs, oui. Il y en a des très bien.
Mais lisez d'une, regardez.
Oui, voilà.
Merci beaucoup.
Merci. Alors.